Et c'est pas obligatoire pour vous. Je dis que ce cours est en premier lieu pour les propédeutes de théologie. Ils ont un privilège particulier. Un privilège spécial. Par exemple, s'il y a des questions, des interrogations, une orientation du cours, n'hésite pas à me le dire. En premier lieu pour eux. Alors, il y a 2 heures. Il y a 2 manières de le faire. Ou on fait 2 heures de suite, du moins on fait 2 heures de suite. On coupe le petit quart d'heure intervalle, ce qui vous permet d'avoir une demi-heure après. Ou au contraire, parce que je comprends que vous avez 3 quarts d'heure de vous avez en envie de vous aérer un peu, il reprend tout simplement à la suite. C'est peut-être mieux que c'est comme ça. L'année dernière, ils avaient opté comme ça. Je vous propose.
Pour savoir s'il faut laisser le petit quart d'heure intermédiaire et puis on reprend après ensuite. Bon. Deuxièmement, ce cours de logique fait pour la propédeutique biologique doit être, parce que c'est un peu une intention pour la vie, vous mettre un peu en contact avec ce que représente la logique traditionnelle de saint Thomas. Et si vous le voulez, on pourra aussi, alors là je vous parlerai par l'intermédiaire de mon assistant, que vous l'avez bien fait, 2 heures, pour que vous compreniez mieux ce qu'est la logique mathématique aujourd'hui. Ça peut être intéressant si vous essayez de comprendre un peu les 2 aspects. Je vous remercie de la baisse de si nous avons le temps, parce qu'on a très peu de temps, je vais dire ça aussi. De philosophie réaliste.
qui existe entre la logique et la philosophie. Donc c'est la première chose qu'on doit essayer de comprendre. Autrement dit, si vous voulez, pour donner la hypothèse de la mèche, que la naissance de la logique relativement à la logique, vous allez voir qu'il y a un petit peu assister à la naissance, puisque vous savez bien, Platon dit que le philosophe, c'est peut-être celui qui approche. C'est naître, on voit la naissance de la logique. Qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que ça correspond à la logique? Comment la logique est-elle? De fait, dans notre philosophie occidentale, la logique est liée explicitement avec Aristote. Tout le monde reconnaît qu'Aristote est le grand-père de la logique. Et en tant que Platon, Platon, lui, ne distingue pas la logique de la philosophie, puisqu'il considère que la dialectique, c'est la philosophie. La pensée dialectique et par le fait même la méthode et la philosophie sont différentes. Tandis qu'au contraire, si vous distinguez les deux, alors à ce moment-là, on peut comprendre quelle distinction entre la méthode. Une méthode, c'est toujours le fruit d'une logique. Pensez à n'importe quelle méthode. Une méthode, c'est toujours une côté logique. Mais ça, c'est à partir de la logique. Alors, quand il n'y a pas de distinction entre la philosophie et la logique, alors évidemment, la méthode fait partie même de la philosophie. Le contenu de la méthode, le contenu de la logique. Ça, on ne comprend pas, c'est très important. Dans une introduction, il y a des papiers que vous comprenez. C'était pour ça. J'ai eu le temps de démontrer que. Mais c'est quand même très important d'essayer de comprendre ces choses tout à fait au bon départ. Une philosophie réaliste est une philosophie qui est l'alliance de l'intelligence et des sens. Et donc c'est toujours une philosophie qui est la base d'un jugement existant. Toujours, dans toute philosophie qui est réaliste, l'expérience propre. Là, réfléchissez un tout petit peu sur le point de départ de la philosophie. Ça, c'est, ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Comment la philosophie, elle, a son point de départ? D'où est née la philosophie? Alors, je vous fais un tout petit paragraphe là-dessus, parce que ça, c'est intéressant. Et ça nous fait partie, ça nous aide à mieux comprendre et mieux résoudre ce problème de la logique. D'où est née? Pas une édification. Ça rend tout ça. N'hésitez pas, quand vous avez des difficultés, vous me direz, les termes que vous ne comprenez pas, je vous les explique. Alors ça, c'est nous qui devons un peu collaborer. Je ne sais pas exactement, mais vous avez dit que c'est les antiques qui nous connaissent. C'est-à-dire que vous en avez déjà fait un petit peu. Alors, n'hésitez pas. Ça, surtout pour les professeurs et les philosophes. Qui suit dans d'autres cours, vous pouvez trouver. Alors, j'explique. Si vous essayez de regarder le développement de la philosophie occidentale, nous sommes dans cette philosophie occidentale, comme la philosophie occidentale, il y a un livre qui est très très bien fait là-dessus. C'est la philosophie occidentale, le développement de la philosophie occidentale. Ça admirable. Alors, tout le monde reconnaît que la source de notre philosophie occidentale, c'est la Grèce. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu des infiltrations entre la Grèce et l'Afrique. Ce n'est pas étonnant que nous fassions rencontre dans ces philosophies, parce que Platon a sûrement pris contact avec certains aspects de d'autre part, le stoïcisme est lui-même une philosophie qui sera liée à le côté juif. Donc il n'y a pas une coupure absolue, mais le développement sûrement est très différent dans la philosophie occidentale et la philosophie. C'est fort des deux côtés. Bien comprendre.
Dieu, moi je suis avec lui. Tout la philosophie grecque, c'est ça. La philosophie grecque a une très grande variété. Et le Merleau-Ponty dit que nous sommes en face des fondateurs. Des sources. Je regarde dans la philosophie grecque. Quels sont les points de départ de la philosophie grecque? C'est quand même intéressant de voir ça. Bien, le point de départ de la philosophie grecque, c'est d'abord l'inspiration. Hésiode, l'avocat, quand il prie, au philosophe, il dit au philosophe, il dit au philosophe, ils ont oublié que de fait, la philosophie a impliqué quand même quelque chose qui n'était pas uniquement humain et qui impliquait une certaine inspiration. Donc vous avez l'inspiration. Le point de départ de la philosophie grecque, c'est d'abord l'inspiration. Et c'est pour ça que le point de départ de la philosophie grecque, c'est d'abord la théologie. Ça peut retenir. Les premiers philosophes, ce sont des théologiens. Les premiers philosophes sont des théologiens. Donc je mets Hésiode, et je mets surtout l'inspiration. C'est ça qui m'intéresse le plus. Vous avez ensuite la philosophie qui se veut une philosophie qui réfléchit sur le monde physique. L'inspiration qui va produire une espèce de théologie. La théologie. La théologie de Hésiode. On commence comme ça joue un rôle très important et de plus en plus on voit Hésiode des points de départ de la philosophie grecque. Au début, on n'aimait pas beaucoup dire ça, aujourd'hui on le reconnaît. Vous voyez, regardez le livre de Giger là-dessus, ce petit livre très intéressant, on dit la théologie naturelle, la théologie en Grèce, on montre que la théologie est à commencer par le point de Hésiode, dans la théologie. La théologie, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire la genèse des dieux, la génésis. Donc, ça a commencé par une inspiration. Deuxièmement, vous avez comme second point de départ l'expérience. Toute la philosophie de Millet, c'est une philosophie de l'expérience. C'est la connaissance du monde. Donc c'est tout, ça part de l'expérience. Vous avez ensuite quelqu'un comme Parménide. Parménide, c'est encore l'inspiration. Donc vous avez l'inspiration et l'expérience. Semble bien au point de départ comme les deux grands aspects de la philosophie. Avec Platon, on pourrait dire la réminiscence, c'est pas l'inspiration, c'est pas l'expérience, c'est au fond l'intuition. Je dis que la philosophie de la vérité commence par une intuition. Parce que la réminiscence est pour cacher une intuition. Au fond, c'est une intuition. L'intuition est forte. L'expérience regarde le monde physique, l'univers physique. L'univers physique, l'homme, c'est l'univers physique. La théologie, on parle. L'inspiration, ce sont les formes idéales. On regarde, ça dépend d'une inspiration. Vous avez ensuite, comme au point de départ, c'est déjà inspiration, expérience, intuition. Vous avez ensuite, pas en philosophie grecque, parce qu'au fond, en philosophie grecque, je crois pratiquement que tout pour l'inspiration, l'expérience ou l'intuition. Je crois que ce sera même tout pour tout. Je ne vois pas très bien, on dit que la philosophie grecque avec l'éthique au niveau des figures, en plus, c'est encore l'expérience. Et c'est une expérience particulière, c'est une expérience forte. Vous avez ensuite, comme point de départ, la réflexion de la conscience. Réflexive. Regarde, c'est la conscience. On ne parle pas de l'expérience, c'est cogito qui est le point de départ. C'est vraiment le point de vue de la conscience qui est le point de départ philosophique. Vous pouvez ajouter encore comme autre point de départ, parce que ça existe chez certains philosophes, surtout aujourd'hui. Alors on dira l'opinion des philosophes. Donc philosophe à partir de l'opinion des autres. C'est plus facile. Sur le dos, vous. Alors je me sers d'un autre philosophe, je le dis au fond Aristote est un grand bonhomme, je fais la philosophie à partir d'Aristote. Voilà, pour le reste. Hegel est un grand bonhomme, je fais la philosophie à partir de Hegel. Et ainsi de suite. Alors on
on a son chef de file. Et à partir de là, on commence. Philosophie de commentateur. C'est une philosophie d'historien. Posez-vous très vite, parce que les gens en philosophie grecque, vous avez la philosophie des commentateurs avec Proclus. Proclus, c'est une philosophie de commentateur. On commente le divin Platon. Et on considère qu'on ne va absolument pas aller contre Platon. Alors Platon, c'est l'autorité, et donc on s'appuie sur cela. Et on fait une philosophie de commentateur. Alors vous avez donc comme point de départ, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que vous avez 5 points de départ. C'est toujours intéressant parce qu'il s'agit de comprendre quel est le point de départ de la philosophie telle qu'on va essayer de la prendre, une philosophie réaliste.
Une philosophie réaliste a comme point de départ l'expérience.
Ça n'exclut pas les autres. Ça n'exclut pas les autres points de départ. C'est ça qui est important à souligner. Si je parle de l'expérience, je peux très bien, à certains moments, être inspiré. Il y a des jours de grâce, plein d'idées merveilleuses, extraordinaires. Il y a des jours où on peut se ténébrer, on ne comprend rien du tout. La difficulté, c'est qu'il faut écouter des cours, même quand on n'est pas dans cette inspiration. Et ben, il faut en faire aussi. Quand on n'est pas inspiré, si je faisais des cours devant les inspirés, les étudiants seraient bien heureux. Mais pas, vous comprenez bien. Parce qu'alors, on dirait aujourd'hui, non, je ne suis pas inspiré. Vous auriez le tableau des professeurs, des rouges et verts, vous diriez, c'est pas eux qui me tiennent à ce qu'ils vous diront, j'avais donné un coup. Tandis que, non, aujourd'hui, on a affaire à des professeurs, hein, faut pas l'oublier. Alors, les professeurs, ils doivent donner des cours, ils doivent donner des cours tous les jours. Hein. Tandis qu'au contraire, si vraiment vous aviez affaire à des philosophes, et qu'ils vous donneraient des cours, vous pensez à ce qu'ils vous diront. Et si vous aviez affaire à des théologiens, aujourd'hui, je peux donner une boucle, j'inspire. Ça va. Mais les autres choses, ça va. L'expérience est quelque chose de beaucoup plus foncier et qui est tous les jours. Tous les jours, je parle à certaines expériences. Et l'inspiration, ça ne vient pas tous les jours. Mais l'expérience ne refuse pas l'inspiration. Mais elle passe au crime de l'expérience. C'est très mal, je ne pourrais pas accepter de dire que moi j'ai eu cette inspiration et à partir de là j'ai développé quelque chose. Alors ça c'est vraiment personnel, subjectif. On peut dire à l'expérience. Donc l'inspiration va venir à l'expérience. L'intuition, ça va être la même chose. Inspiration et intuition, ça va être très très fort. Très très fort. Moi comme je dis pas la différence, comme inspiration et intuition. Ordinairement, la différence, c'est que l'inspiration, on dit que c'est une lumière qui vient du dehors, et l'intuition, c'est une lumière qui vient du dedans. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de différence entre les deux. Parce que je crois que toute inspiration implique une intuition. J'ai une intuition. Je ne dis pas nécessairement que c'est une inspiration qui vient d'en haut. Qui vient d'une contrepart. Tandis que l'inspiration, oui, on invoque les murs. On invoque Dieu. On lui demande de nous inspirer et de nous donner l'intuition, mais la révélation. Le point de départ, la révélation implique l'inspiration et implique l'intuition. Toute révélation. Pas tout seul. Là, on dit que ça vient d'en haut. Pour la philosophie, hein, vous comprenez bien. Au point de vue théologique, la théologie commence avec la révélation. Là. C'est tout à fait autre chose. Tandis qu'au contraire, en philosophie, l'inspiration et l'intuition ne peuvent jamais être absolument premiers. Il faut que ça corresponde à la réalité. Et donc je reviens toujours à une certaine expérience, à cette réalité. J'en ai l'intuition, mais qu'est-ce que ça correspond? La conscience, toute expérience implique une conscience. Mais ce n'est pas la même chose, l'expérience et la conscience. Et ceci, c'est très important aussi, comprendre la différence entre les deux. Et quand vous avez eu un accident de voiture, vous avez eu une expérience, et vous en avez pris conscience, ou au contraire, vous êtes tombé dans un domaine qui avait particulier et vous avez perdu conscience. Et alors, à ce moment-là, ayant perdu conscience, votre expérience est extrêmement limitée. Ah, j'ai vu juste ce moment-là, et bien après, je suis tombé dans je ne sais pas quoi. Il y a eu un coup. Chaque fois que vous avez une expérience, vous avez conscience de l'expérience. Donc c'est toujours lié, expérience et conscience. Mais La différence, c'est que l'expérience veut saisir le contenu objectif de l'expérience, tandis que la conscience, c'est l'aspect subjectif. Et c'est toujours lié, encore une fois. L'opinion, pratiquement, pour une philosophie réaliste dans laquelle nous nous plaçons, parce que c'est là où la logique apparaît comme distincte, nous allons voir comment, toute philosophie réaliste respecte l'expérience comme première source philosophique. Comme première source, vous faites la philosophie de vos expériences. Jamais oublié. C'est très important. Mais à côté de vos expériences, il y a l'expérience des autres. Alors, vous vous servez comme seconde source de l'opinion. Intéressant de voir quelqu'un qui a fait un petit voyage que vous en faites. Écoutez les cosmonautes, vous avez la sens de vous voyez, on va faire la philosophie des clients de l'air. Je sais pas ce que ça fait très grand-chose, mais quand même c'est une expérience. Alors comme je n'ai pas toutes les expériences, je me sers de l'opinion. Je dois me servir toujours comme source philosophique de l'opinion. Et je suis attentif à ça. Donc à côté de l'expérience, à côté de la première source de l'expérience, il y a une seconde source, l'opinion. Et dans la source de l'expérience, je n'exclus pas l'inspiration, l'intuition et la conscience. Donc au fond, je crois qu'il faut garder ces cinq modalités en les ordonnant. Première, l'expérience. Seconde, je ne peux pas faire une philosophie à partir de l'opinion. Il faudra que je fais l'histoire de l'opinion. Je ne peux pas. Il faut que l'opinion des autres m'éveille à certains problèmes. L'opinion des autres m'éveillera à certains problèmes. Mais c'est bon de réfléchir sur ces cinq points de départ. De sorte qu'une philosophie réaliste a toujours comme critère le point de vue de l'expérience. C'est toujours l'expérience de la réalité qui est extérieure à moi, ou tout simplement ma propre expérience intérieure. Parce que vous pourriez ajouter ici, vous prenez l'expérience qui est à l'égard du monde physique, et l'expérience qui est à l'intérieur. Avoir une expérience de l'amour. Alors là, c'est très proche de l'intuition. Très proche. Même très curieux. C'est quand même une expérience intérieure. Il y a l'expérience extérieure. Donc vous avez les deux aspects. Alors est-ce que vous pouvez baser toute votre philosophie sur l'expérience intérieure? Ou est-ce que vous êtes obligé tout le temps de revenir à une expérience extérieure? Là, il y a un très gros problème. Je ne veux pas entrer dedans, parce que ça c'est un problème de philosophie, mais dans le critique. Mais c'est important. Est-ce que je peux baser toute ma philosophie sur l'amour et cette expérience intérieure de moi-même? Ou au contraire, que j'aime quelqu'un, et c'est moi qui ressens cette expérience. Une expérience intérieure, ça ne se communique pas. L'expérience extérieure, je peux la communiquer. Vous direz à quelqu'un, allez regarder, vous verrez. Quand vous voyez des choses extraordinaires, allez regarder, vite, vous voyez. Avec l'expérience intérieure, c'est-à-dire, oui, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire intérieur. C'est une communauté. Donc il y a quelque chose de particulier dans l'expérience intérieure, que c'est d'une certaine manière incommunicable. Tandis que l'expérience extérieure est communicable. Donc vous avez là cinq points de départ, les cinq ou six, si vous mettez les deux, l'expérience intérieure ou l'expérience extérieure, parce qu'il y a les deux. La philosophie augustinienne, c'est une certaine philosophie, elle commence par l'expérience intérieure. Vous pouvez mettre des noms, hein, c'est facile à voir, c'est intéressant, de bien situer ces six ou ces cinq points de départ. La preuve de la philosophie réaliste, c'est de commencer par l'expérience. On ne reste pas expérience, on analyse. Par rapport à cette philosophie, que représente la logique? Parce que c'est ça qu'on se pose comme question. Essayez de distinguer les deux. Il faut voir la naissance de la logique. Dans une philosophie réaliste, je peux faire la distinction entre la réalité connue et la manière dont je la connais. Et c'est au moment où on a pris conscience de la distinction qui existe entre la réalité que je connais, à laquelle j'adhère, et la manière dont je la connais, que la logique est. C'est pour ça que dans une pensée dialectique, où le contenu de la connaissance et la manière de connaître ne font plus qu'un, je ne peux plus distinguer. Et c'est ça qui est très important. C'est très important de dire ça. Parce que c'est là où on s'aperçoit que de fait, la logique implique une attitude réflexive. Je ne veux pas dire. La philosophie dans l'expérience est quelque chose de direct. Véritable expérience, c'est direct. L'intuition, c'est quelque chose de très direct. C'est bien évident. Comment c'est pas une intuition? L'inspiration, c'est aussi très direct. La conscience, c'est déjà réflexif. Donc, la conscience présente dans l'expérience, présente dans l'intuition, présente dans l'inspiration, va permettre de voir comment, à l'intérieur de cette réflexion, je peux distinguer deux façons d'être. Je m'explique pour que vous voyez. Et ça, c'est important pour bien saisir ce que représente le problème de la logique. Chaque fois que j'ai eu une expérience un peu forte, j'ai conscience de cette expérience. Je dirais que c'est l'auto-lucidité de cette expérience. Chaque matin, quand vous vous réveillez, c'est une expérience, vous vous réveillez. Normalement, ça arrive. Mais on se réveille bien de temps en temps quand vous vous rendez vers le voisin. Vous vous réveillez. C'est l'expérience, ça. Vous avez conscience de vous réveiller. Normalement, l'expérience implique une conscience, une auto-lucidité. Vous êtes lucide. Et quand vous vous endormez, vous êtes un peu moins lucide. Jusqu'au moment où vous n'êtes plus lucide du tout. C'est comme ça. Hein. Ne cherchez pas trop parce que vous n'arrivez plus à vous endormir. Mais autrement, c'est vrai, si vous essayez de voir tous les dégradés de l'auto-lucidité, c'est très grave. Hein. Vous êtes dans cette attitude de celui qui réfléchit tout le temps en disant, mais j'ai conscience, je vous vous répétez 100 fois, j'ai conscience, et vous n'avez pas conscience. Là, vous n'avez plus conscience, je vous dégraderai le temps. Alors, c'est vrai, on a conscience des degrés différents de conscience. Des degrés différents de conscience. Vous n'êtes pas conscient de toute façon, mais des degrés différents de conscience. Donc, l'auto-lucidité que vous avez dans la conscience, c'est simultané à votre connaissance. C'est le propre de la connaissance intellectuelle, qui n'est pas rationnelle. Intellectuel, d'être conscient. Mes sensations sont conscience grâce à mon intellect. C'est vrai. Parce que quand votre intelligence est coupée, vous voyez, vous le touchez, vous n'êtes pas conscient. C'est votre intelligence qui vous donne la conscience de vos sensations. C'est votre intelligence qui vous donne la conscience de votre imagination. C'est prendre de la connaissance intellectuelle d'être auto-lucide. D'avoir cette possibilité, au moment où je connais l'autre. Je suis conscient de connaître l'autre. Je suis conscient. C'est moi qui connais. C'est l'apparition du moi. C'est si important, l'apparition du moi. L'apparition du moi, c'est moi qui connais. C'est des philosophies du moi. Il y a en pleine lumière ce moi qui apparaît. C'est moi qui connais. C'est au fond l'arrêt. C'est la conscience, là. Si votre conscience est très forte, vous vous arrêtez à votre moi. Mais alors vous oubliez quelquefois ce que vous connaissez. Mais c'est curieux, ça. Quand vous êtes très très conscient de connaître, conscient de connaître, vous êtes très attentif à ce que vous connaissez. Donc il y a des gradués là, mais c'est très complexe. Mais c'est important de voir le problème de la conscience
et cette autodiscipline du domaine intellectuel. Je pousse cette réflexion et je vois que je suis capable, dans cette autolucidité, de faire une distinction entre ce qui est connu par l'expérience et la manière de le connaître. Si vous faites des expériences multiples, vous faites tout de suite. Pensez tout simplement à une manière de regarder une statue, un objet d'art. Pensez à son et lumière. Parce que ça m'a ennuyé. Alors, ça peut tout de suite réfléchir sur ce point de vue-là. Quand vous regardez la même réalité, la même statue, vous pouvez la regarder de multiples manières. Une fois de rare, il y a quelques années, une statue un peu extraordinaire de Marie d'Incarnation, c'est celle qui est installée par l'heure. Très beau. Et il y avait un père cadre et qui voulait vous parler de Marie de l'Incarnation, la belle incarnée, c'est-à-dire raconter toute sa vie avant d'entrer, n'est-ce pas, au Carmel, elle n'avait pas une bonne vie édifiante, pour montrer qu'il n'y avait pas au Carmel, après avoir eu quelques secousses. Non, et alors, c'était de montrer l'évolution des deux. Alors, elle est venue, ce père cadre, et vous demandez la mère Pugnot si vous pouvez photographier ce but. Quelqu'un m'a envoyé un photographe, qui a pris 50 photos. Alors, il y avait les yeux, le sourire. Il y avait, vous voyez, hein, analyser le buste de 50 manières. C'était toujours le buste. C'était toujours cette réalité, la même réalité. Il l'a photographié de 50 manières. Voilà, vous commencez à comprendre la différence qu'il y a entre connaître le jour et la manière de connaître. C'est tout simple. La réalité, on la voit tous les jours. Il y a la manière, il y a la même réalité que vous connaissez, c'était toujours le même buste que vous connaissez de 50 manières. Alors, une fois que vous avez compris, il y a une distinction entre ce qui est connu et la manière de faire. Vous voyez donc qu'il y a une possibilité non seulement de réfléchir sur ce que je connais, mais je peux réfléchir sur la manière dont je le connais. Et c'est là où apparaît le livre. La manière dont je le déforme. La merveilleuse, je suis allé en regardant ces photos, en fait, mais ils m'ont déformé mon buste. Parce qu'évidemment, c'est évident qu'il est complètement déformé. Quand il n'était que les yeux, quand il n'était que le sourire, il déformait complètement le buste. Parce que le buste, c'est plus ça. On fait une abstraction, quatre vases, puis on met sans lumière. Alors, au fond, la logique apparaît avec la possibilité de l'abstraction. Quel est le fondement de la logique? C'est l'abstraction. Si j'avais une connaissance purement intuitive et uniquement intuitive, il n'y aurait pas de logique. La logique apparaît parce que ma connaissance humaine, ma connaissance intellectuelle, implique une possibilité d'abstraction. Je peux abstraire. Au fond, dans l'art, on fait consciemment, j'abstrais. Je ne veux regarder que les yeux. Le nez, non. Le nez, tant pis. Je ne regarde pas le nez. Je ne regarde que les yeux. Les yeux sont un grand. S'il y avait un nez proportionné au regard, ce serait extraordinaire. Mais justement, ça ne correspond pas tout à fait. Alors je fais une abstraction. J'abstrais. Et on fait automatiquement ça. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est que là, nous mettons en lumière quelque chose que nous oublions quelquefois. C'est que autre chose est connaître telle réalité, autre chose la manière dont on fait. Parce que entre deux, il y a un procédé d'abstraction. Dont je suis conscient ou dont je ne suis pas conscient. Il y a des quantités d'abstraction, vous n'êtes pas conscient. Dans le langage. Le langage présuppose l'abstraction. et vous n'en êtes pas conscient. Et la philosophie mettra, c'est important parce que nous reviendrons sur le langage, c'est très important. Très important par rapport à la logique. Et au fond, dans le langage, quand il dit chant, oui, chant. Surtout un gosse, quand il répète, hein, fait le perroquet. Et on fait le perroquet encore longtemps. Surtout quand vous avez des gros mots philosophiques que vous ne comprenez absolument pas et que vous répétez, alors vous avez le droit de perroquer dans les examens. Mais pas dans votre vie. Pas dans votre vie. Le jour des examens, vous avez le droit de répéter des mots que vous ne comprenez pas. Si le professeur est content, tant mieux, vous l'avez bien roulé. Et tant mieux, c'est parce que vous avez le droit de répéter des mots que vous ne comprenez pas. Mais dans votre vie, dans votre hygiène intellectuelle, vous n'avez jamais le droit de dire. Répéter des mots que vous ne comprenez pas, petit à petit, ça fait que tout ceci va mieux. C'est très curieux. Et c'est une des choses que le philosophe nous sait de rappeler, hein. C'est la grande méthode Socrate. La méthode Socrate, vous voyez, Socrate n'a pas inventé la logique, mais Socrate a tout préparé pour que la logique apparaisse. En montrant répéter des mots, ce n'est pas toujours comprendre ce que ça voulait dire. Vous répétez des mots, mais vous devez comprendre ce que signifie ces mots. Et vous devez comprendre qu'au-delà de ces mots, il y a une pensée. Donc, vous voyez la naissance de la philosophie, de la logique. Hein. Alors, la logique apparaît au moment où je prends conscience qu'il y a une abstraction. Et prenant conscience qu'il y a une abstraction, je peux m'apercevoir que toute ma connaissance intellectuelle inclut l'abstraction. Ça, c'est très douloureux, d'ailleurs. Toute votre connaissance intellectuelle, que vous en ayez conscience ou pas conscience, elle implique une certaine abstraction. Une certaine abstraction. D'où le langage. Le langage correspond à une certaine abstraction. Et par le fait même, la logique va regarder toute votre vie intellectuelle. Du moins, elle peut. Elle peut, parce qu'il y a un décalage entre la réalité et la manière dont vous la connaissez. Vous voyez tout de suite la différence avec la dialectique. La démarche dialectique prétend que la démarche philosophique de l'intelligence est adéquate au réel. Parce que vous prétendez que votre connaissance est adéquate au réel. Si vous prétendez que votre connaissance est adéquate au réel, alors il n'y a plus de possibilité. Mais si votre connaissance n'est pas adéquate au réel, si votre connaissance ne saisit toujours qu'une partie du réel, et c'est vrai, votre connaissance ne saisit qu'une partie du réel. Quand vous connaissez, par exemple, certaines lois biologiques, ceci a un fondement dans la réalité, ces lois ont un fondement dans la réalité, mais ce n'est pas le réel. La connaissance biologique que vous avez du réel, du vivant, ce n'est pas le vivant. Vous êtes très joliment un savant, mes amis, il faut tuer le vivant pour le connaître. On ne connaît que le vivant quand il est mort. Scientifiquement, c'est bien le vivant. Comment vous ne pouvez pas faire du tout histologique. Impossible. Et donc, faut tuer. Et donc, vous ne connaissez pas. Vous connaissez les résidus. Vous connaissez une abstraction. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. La science n'existerait pas, ce n'est pas l'abstraction. Donc, le fondement de la logique, c'est le point de vue de l'abstraction. Par le fait même, vous voyez que toute philosophie réaliste qui essaie de comprendre va nécessairement être doublée. Je crois que ça, vous pouvez comprendre. Hein, en gros, la naissance de la logique, c'est prendre conscience de l'abstraction. Dans la mesure même où vous comprenez que toutes vos connaissances intellectuelles, et surtout vos connaissances scientifiques, ainsi que vos connaissances philosophiques, même vos connaissances théologiques, toutes vos connaissances intellectuelles, étant donné le conditionnement de notre intelligence, toutes vos connaissances intellectuelles impliquent nécessairement une certaine abstraction. Par le fait même, il y aura toujours possibilité de voir apparaître dans une logique. Et quand vous croyez qu'il n'y a pas d'abstraction, vous êtes dupe. La pensée dialectique, c'est elle nous fait croire qu'on colle au réel et on ne colle pas au réel. Il y a une différence entre les deux. La dialectique n'est pas le réel, c'est la démarche de votre vie intellectuelle. Et ce n'est pas la démarche du réel. Monod dit ça admirablement, et Monod n'était pas pourtant dans la même position que vous proposez. C'est quand même intéressant de voir quelqu'un comme Monod, qui était un grand savant, comme savant, il était un grand savant dialectique. Il dit que la vie n'est pas dialectique. Et donc, la dialectique, la démarche dialectique, c'est une démarche de l'esprit. Alors, c'est autre chose. C'est une démarche de l'esprit. Et l'esprit n'est pas entièrement dialectique. C'est une démarche. Et Monod comprend la dialectique. La vie n'est pas dialectique. Et donc, la démarche de l'esprit, au niveau dialectique, ne me donne pas ce que c'est que la vie. Ni l'abstraction. Ça, j'ajoute ça. Ça, c'est l'abstraction. C'est une démarche abstraite. Et parce qu'il y a une démarche abstraite, ce n'est pas cet aspect-là. Autre problème, toujours dans l'introduction. Autre problème, c'est la distinction entre la critique et la logique. Et ça, je crois que c'est important de se dire aussi. Mieux saisir ce que c'est que la logique. La critique, c'est une attitude réflexive sur la vie de mon intelligence. Je dirais que la critique regarde toute la vitalité de mon intelligence, ma manière de connaître le comment de mon intelligence. Et toutes ces démarches intellectuelles. La logique saisit ce que mon intelligence ajoute au réel. C'est pas la même chose. Autrement dit, la logique n'est qu'une petite partie de la critique. La critique, c'est beaucoup plus vaste. La critique est très très proche de la philosophie. Et la critique, elle est proche de la philosophie. Elle est proche de la philosophie. Il faut critiquer toute la philosophie, comme il faut critiquer les mathématiques, comme il faut critiquer toutes les sciences. Ça demande d'être critiqué. Je prends critique au sens réflexion sur la démarche de notre vie intellectuelle pour mieux comprendre ce que représente cette démarche de notre vie intellectuelle. La logique va essayer de comprendre la manière dont mon intelligence, quand elle connaît, des formes de réel. Et de saisir cette déformation, et de saisir comment cette déformation, je puis la saisir et m'en servir pour mieux connaître. Je ne dis pas une erreur. Hein. Je vous ai dit que la logique apparaissait à partir de l'abstraction. Quand vous abstrayez, forcément, vous donnez à la réalité une modalité particulière. Ça a sonné. Je crois que c'est on arrête un quart d'heure de pause, et puis on reprend après. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont obligés d'être pris pour un autre coup. Je suis désolé, mais je continuerai. Je ne peux pas que. C'est impossible. Autant que possible, suivez les deux coups. Autant que possible. Je dis ça pour vous. Hein.